Alors bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. On a passé un bon week-end de Pâques et on est content de se retrouver pour continuer cette traversée de la Bible. La dernière fois, on a parlé du livre de Job, qui n'est pas un livre très folichon. Les questions qui sont abordées sont des questions graves, des questions difficiles, la question de la souffrance. Et en même temps, dans le livre de Job, on a vu qu'un des chapitres centraux, c'est le chapitre 28, qui est une sorte de, à la fois de transition, de conclusion de tout ce cycle de discussion entre Job et ses amis, et en même temps qui vient anticiper la venue du quatrième interlocuteur. Et le chapitre 28 s'intéresse à la sagesse. La sagesse en tant que science, pas simplement la connaissance brute, il ne s'agit pas d'accumuler des données, mais des données qui sont interprétées, des données qui sont comprises. C'est la compréhension qu'on a du monde qui nous entoure. Alors ça s'intéresse, ça peut désigner la science aussi dans le sens où, y compris, je sais pas, les questions de quand on s'intéresse à la gravitation ou des phénomènes climatiques, etc. C'est de la science. Et en même temps, on cherche à avoir des données, à les interpréter. Dans le livre de Job, la question qui était posée, cette connaissance qu'on cherchait à avoir et cette compréhension qu'on voulait obtenir, c'est par rapport à la souffrance et la souveraineté divine. Et donc, il y avait un verset clé. Dans, si je le retrouve, Job 28:28, c'est pas difficile à retenir, qui nous dit, et finalement, Job 28:28 nous dit, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse, s'écarter du mal, c'est là l'intelligence. Et donc, il y avait cette clé qui était là au cœur même du livre de Job. Et aujourd'hui, on passe au livre des Proverbes. Et précisément, le livre des Proverbes, finalement, va reprendre cette thématique, mais va la développer pour en faire tout un livre. Donc, pas simplement quelques versets ou un chapitre au cœur du livre de Job, mais tout un livre. En outre, dans le livre de Job, dans ce chapitre 28 de Job, on cherchait à découvrir la sagesse et à la trouver. Et donc la sagesse était présentée comme... il y avait une sorte de matérialisation de la sagesse. Hein. C'est verset 12, où se trouve-t-elle? Où est donc le lieu de l'intelligence, etc. C'est un peu... on la compare, verset 15, de l'or pur, de l'argent, donc un peu comme une denrée qu'il va falloir extraire. Voilà, trouver ça quelque part, trouver un filon et pouvoir l'extraire. Comme si c'était un matériau précieux, une pierre précieuse. Et là, on va aussi avoir ce phénomène de matérialisation de la sagesse. Sauf que là, ce sera carrément une personnification. C'est-à-dire que la sagesse va être présentée comme une personne, une femme d'ailleurs, peut-être une divinité. On va y revenir. Donc voilà pour l'objet du livre des Proverbes, cette quête de la sagesse, cette présentation à la fois sur des aspects généraux, théoriques, et puis aussi, on va le voir, sur des aspects très concrets dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, on remarque que dans la littérature juive, plusieurs types de sagesse sont développés. Dans le livre de Job ou dans le livre des Proverbes, ça va être de la sagesse, notamment dans le livre des Proverbes ici, on va voir, ça va être une forme de sagesse accessible à chacun et que l'on découvre dans son quotidien. C'est du bon sens, c'est de l'intelligence, c'est... dans ses rapports avec les autres, dans son travail, etc., etc. Il y a vraiment un côté concret, pragmatique de cette sagesse. Alors qu'un autre type de sagesse va se trouver dans la littérature de type apocalyptique. On n'a pas encore vu grand-chose. On a vu, par exemple, le livre d'Ézéchiel, qui déjà un peu où on trouve des sortes de visions, des choses un petit peu... donc des révélations, des choses qui ne sont pas accessibles à l'humain d'ordinaire. On le verra de nouveau avec le livre de Daniel. Mais dans la littérature du judaïsme ancien, on a aussi le livre d'Enoch, etc. Enfin, d'autres livres qui appartiennent à ce genre, donc apocalyptique. On reçoit une révélation divine. Et du coup, cette connaissance que l'on va acquérir, c'est une connaissance qu'on ne pourrait pas développer soi-même. On a besoin que Dieu la révèle. Et donc, il y aura une forme de sagesse, une sagesse révélée, une sagesse mantique, mais qui n'est pas du tout ce qu'on trouve ici dans le livre des Proverbes. Là, on a affaire à un autre type de sagesse. C'est finalement une sagesse que l'on peut trouver par soi-même, qui est le fruit de son expérience. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans la section principale, la section centrale du livre des Proverbes, finalement, Dieu n'est pas très présent. Et vous allez voir également que bon nombre de ces proverbes, en réalité, sont empruntés à d'autres cultures, d'autres littératures, mésopotamiennes, égyptiennes, arabes, Tout simplement parce que finalement, l'expérience, elle est là. L'expérience, on peut l'acquérir. On n'a pas besoin d'adhérer à la religion israélite ou judéenne pour recevoir cette sagesse. Donc, il s'agit vraiment d'une sagesse pragmatique. Alors, regardons la structure du livre des Proverbes. On a des indices du caractère composite du livre des Proverbes si on regarde les titres de certaines sections. Par exemple, au chapitre 1er, verset 1er, on a le titre « Proverbe de Salomon » ou « Maxime de Salomon » selon vos traductions. L'hébreu, c'est « Machal » qui peut soit signifier la comparaison, soit au contraire l'instruction ou le discours. On l'a dans Nombre chapitre 6, on le retrouve en araméen, il introduit également le livre d'Enoch, etc., etc. Donc c'est ce qui est traduit habituellement par les proverbes et les maximes. Donc là, on voit très bien, on a un en-tête. Et puis, un peu plus loin, au chapitre 10, vous avez de nouveau, verset 1er, Maxime de Salomon, proverbe de Salomon. Donc ça veut dire qu'on a une nouvelle section. Donc il y a un premier livret qui est composé des chapitres 1 à 9, et puis un deuxième qui commence au chapitre 10 et qui va au moins jusqu'au chapitre 22. Le véritable intitulé suivant, on le retrouve au chapitre 25 en fait. Chapitre 25, verset 1er, voici encore des proverbes de Salomon, transmises par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Donc vous avez de nouveau, on vous dit, voilà, il y a une nouvelle section avec d'autres proverbes qu'on vient ajouter. Donc vous voyez de nouveau la mention, à chaque fois c'est Salomon, sauf que là on précise que ça a transité par Ézéchias, enfin à l'époque d'Ézéchias. Au chapitre 22 à 24, on peut se demander s'il n'y a pas d'autres sections qui auraient été greffées là, notamment une ou deux sections qui correspondent à des paroles de sages. Regardez chapitre 22, verset 17. « Tends l'oreille pour écouter les paroles des sages. » Et puis de nouveau, chapitre 24, verset 23. « Ceci également vient des sages. » Donc, on a l'impression que là, l'origine de ces paroles, c'est pas Salomon directement, ce sont les sages. Donc, il y aurait une autre source que Salomon, il y aurait les sages. Et ce serait donc la deuxième moitié du chapitre 22 jusqu'au chapitre 24. Et à ce moment-là, là encore, séparé en deux, puisque, vous voyez, chapitre 24, verset 23, on a de nouveau un petit titre. Et puis enfin, tout à la fin du livre des Proverbes, chapitre 30 et 31, si vous regardez chapitre 30, verset 1er, vous avez « Parole d'Agour, fils de Yaqué ». Voilà. Donc, vous avez de nouveau quelqu'un d'autre qui a écrit des Proverbes. Au chapitre 31, verset 1er, « Parole du roi Lemuel ». Sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Alors il est roi, mais on ne sait pas qui c'est. Donc vous avez ces deux personnages à la fin, chapitres 30 et 31. Les deux chapitres eux-mêmes, 30 et 31, peuvent être divisés en deux parties, non pas par des titres, mais parce qu'on change de style. Par exemple, au chapitre 30, la deuxième moitié, donc à partir du verset 15, ce sont des proverbes numériques, on y reviendra. Mais du coup, peut-être que c'est encore une autre section, peut-être que ça a rattaché aux paroles d'Agour, peut-être que c'est encore autre chose. De la même manière, au chapitre 31, à partir du verset 10 et suivant, vous allez avoir un portrait d'une femme, et notamment, ça va devenir un psaume, ce ne sera pas un psaume, un passage, un acrostiche alphabétique. Donc vous allez avoir retrouvé la structure acrostiche qu'on a vu dans certains psaumes. Aleph, Bet, Gimel, on fait tout l'alphabet, chaque phrase commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Donc c'est aussi quelque chose, une structure qui est un ensemble qui est à part. Donc est-ce que c'est rattaché à Lemuel ou est-ce que c'est encore autre chose? Voilà, grosso modo, disons, pour la structure qu'on peut obtenir. Donc ça nous donne entre 5 et 9 sections, si vous voulez, entre 5 et 9 livrets, selon que vous comptez uniquement les personnages qui sont mentionnés, à savoir Salomon, Salomon de nouveau, Salomon via l'époque d'Ézéchias, Agour, Lemuel. À ce moment-là, vous arrivez à 5 sections. Et peut-être éventuellement, si vous introduisez une ou deux sections attribuées aux paroles des sages, et puis peut-être une ou deux sections qui seraient indépendantes. En tout cas, ça montre très clairement le caractère composite du livre des Proverbes. On y reviendra tout à l'heure pour discuter peut-être, si on a le temps, à la fin de l'heure, de l'histoire de la rédaction de ce livre. Alors commençons par la première section, les chapitres 1 à 9. Ce sont donc c'est une section qui est rattachée donc à Salomon. Le verset premier est l'entête de cette section, mais on a l'impression que ce n'est pas simplement l'entête de la section, on a l'impression que c'est quand même l'entête de l'ensemble du livre. Tout d'abord parce qu'on a un intitulé qui est plus long. Au chapitre 10, il y a juste marqué que c'est Maxime de Salomon, puis c'est tout. Alors que là, on nous dit bien qu'il est fils de David, roi d'Israël. Au cas où on aurait eu un doute sur l'identité de ce Salomon, on nous précise de qui il s'agit. Son identité comme fils de David est évidemment importante quand on rattache ce texte à l'idéologie liée au roi David et à la légitimité du trône de David, de la dynastie davidique au trône en place à Jérusalem. Et le personnage de Salomon lui-même est un personnage d'autorité en ce qui concerne la sagesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait lu les livres des rois, j'avais souligné les qualités du roi Salomon et notamment la sagesse qui est mise en avant. Si vous regardez dans le premier livre des rois, au chapitre 3 du premier livre des rois, on nous parle de Salomon, c'est l'époque où Salomon prend le pouvoir. Il va se marier et puis au chapitre 3 Dieu va lui apparaître. Yahvé apparaît à Salomon dans un rêve et il lui dit: demande ce que tu veux, je te le donnerai, verset 5. Et sa réponse au verset 9: donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Et du coup Dieu répond, verset 11: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole. Et regardez bien verset 12: je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu avant toi et qu'il ne se lèvera jamais plus après toi personne de semblable à toi. Donc là, on nous dit Salomon est un personnage unique dans l'histoire de l'humanité. Personne avant lui, personne après lui. Alors c'est vrai que je vous avais fait remarquer à l'époque qu'on a à peu près la même chose qui est dite à propos de Moïse, en disant qu'il n'y a eu jamais personne avant lui, jamais personne après lui. Maintenant c'est un petit peu compliqué que les deux, et tous les deux prétendent tous les deux au titre d'homme le plus sage qui ait pu exister. Et puis de la même manière, enfin bref. Donc là on met en avant donc la sagesse de Salomon. Et on la retrouve un petit peu plus loin, de nouveau, au chapitre 5. Au chapitre 5, on nous parle de la sagesse de Salomon. Donc, 1 Roi, chapitre 5, verset 9, « Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, un esprit aussi vaste que le sable qui est au bord de la mer. » Regardez bien, verset 10, « La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse de l'Égypte. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, l'Ezraïte, plus que Éman, Calcol et Darda, les fils de Maol. » On ne sait pas qui c'est, hein, ces hommes-là, mais apparemment, ils devaient être sages, puisqu'ils étaient réputés, on les cite ici. « Son nom était connu dans toutes les nations environnantes. » Verset 12, « Il a prononcé 3000 proverbes, 3000 maximes, et ses chants sont au nombre de 1005. » Donc, regardez bien ici, on dit 3000 proverbes. Alors, c'est plus que de proverbes dans le livre des proverbes. Donc, c'est une façon de dire... finalement, même le livre des Proverbes dans son ensemble ne reflète qu'une petite partie de tout ce que le roi Salomon a pu produire. Donc, vous voyez qu'il y a une tradition qui se développe autour de Salomon. Alors, la question, ce n'est pas de savoir quelle est l'historicité de ses paroles. L'histoire nous échappe. Mais la tradition qui se développe, elle est évidente. Et elle est évidente dès le livre des rois. Donc, ça veut dire que déjà... Au cours du premier millénaire avant notre ère, au milieu du premier millénaire avant notre ère, il y a déjà des traditions qui se sont développées autour du personnage de Salomon comme étant l'homme le plus sage de toute la terre. Il n'y en a eu jamais personne avant lui, jamais personne après lui, célèbre dans le monde entier et qui a écrit un nombre incalculable de proverbes. Donc, qui mieux que lui peut incarner la sagesse et donc recevoir l'attribution du livre des Proverbes? On comprend bien pourquoi c'est lui qui est mis en avant, et ce, à plusieurs reprises, dans le livre des Proverbes. Alors, ces premiers versets nous renseignent également sur le thème du livre des Proverbes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la sagesse. Et là, on le dit d'emblée. Au verset 2, « pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité, droiture, pour donner aux naïfs un esprit avisé, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Donc voilà le but, c'est donc d'apporter, d'instruire, de donner la sagesse et l'intelligence. Verset 5, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent acquérera l'art de diriger, pour comprendre maximes et sentences, les paroles des sages et leurs énigmes. Alors, donc on voit cet enseignement qui est apporté concernant la sagesse, c'est là le thème central, le thème fondamental. La notion de bon sens, donc de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a vraiment cette notion de bon sens dans des situations auxquelles on est confronté dans la vie de tous les jours. Et vous allez voir, on va aborder des questions aussi pragmatiques que l'argent, le rapport avec les autres, la parole, il vaut mieux se taire plutôt que de dire des bêtises, enfin des choses comme ça. Et également le lien avec la responsabilité, c'est-à-dire que ces proverbes sont adressés tout particulièrement à ceux qui sont dans des positions d'autorité. Le roi, les autres, on va voir, bon, Salomon lui-même est un roi, Lemuel aussi est un roi, etc. Donc on n'est pas dans un contexte uniquement de la population, du citoyen lambda qui va en tirer profit, bien sûr, pour le cadre familial et peut-être gérer ses champs, mais en particulier pour ceux qui, comme Salomon, justement, ont de grandes décisions à prendre. Et donc, ils vont pouvoir apprendre l'art de diriger. Et puis enfin, verset 7, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Et là, évidemment, c'est le verset clé. C'est la voûte. C'est la voûte sur laquelle tout se tient. La crainte de Yahvé, c'est le commencement de la sagesse. Il faut commencer par là. Alors c'est intéressant, alors même que je voulais dire, il y a d'autres sections où vous allez voir, finalement, il n'y a pas vraiment de rapport avec Yahvé ou l'aspect purement religieux. Ce verset, la crainte de Yahvé, c'est ce qu'on retrouve dans Job 28-28, ce que je disais tout à l'heure. Alors ensuite, les neuf premiers chapitres donc, vont s'intéresser à cette sagesse. Et une des caractéristiques de cette section, c'est la personnification de la sagesse. Regardez verset 20 du chapitre 1er. « La sagesse crie dans les rues, sur les places, elle fait retentir sa voix. Au carrefour bruyant, elle crie, aux portes de la ville, elle prononce ses paroles. » Donc elle parle. Cette sagesse, ce n'est pas simplement une qualité, ce n'est pas simplement une vertu. On avait déjà vu dans Job qu'elle pouvait être comparée à une sorte de métal précieux, mais là, elle est comparée à une personne. Et on va retrouver cette personnification au chapitre 8, de nouveau au chapitre 9. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est qu'elle est aussi au pluriel. Et au chapitre 9 aussi, elle est au pluriel. Donc, vous n'avez pas chorma, en hébreu, vous avez chormot. Alors, on peut se poser la question de pourquoi ce pluriel. Est-ce que c'est un pluriel qui désigne le fait que la sagesse en elle-même est plurielle, elle est multiple, il y a différentes facettes? Est-ce qu'on pourrait imaginer que, de par le fait que c'est une personne, elle est considérée comme une divinité? Il est possible qu'on ait ici la trace de tradition liée à une déesse de la sagesse, etc. Pas qui serait parallèle à Elohim. Elohim est du pluriel, Chochmot est du pluriel. Donc regardez au chapitre 8 de nouveau. La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence ne fait-elle pas retentir sa voix? Et puis au chapitre 9, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé 7 colonnes. Elle a égorgé une bête, préparé son vin et dressé sa table. Donc on voit, elle agit. Alors, cette section donc comporte des discours assez généraux sur la place de la sagesse, l'importance de la sagesse, le fait que la sagesse est précieuse, qu'il faut la garder. Donc on est vraiment dans des considérations générales et sur des questions fondamentales. Chapitre 3, verset 18, « La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. » Verset 19, « C'est par la sagesse que Yahvé fonde la terre. » Donc vous voyez, la sagesse est le moyen par lequel Dieu a créé l'univers. Et là encore, ce côté de personnification, vous allez le retrouver d'abord dans d'autres livres du judaïsme ancien, la sagesse du Siracide, par exemple, hein, le livre de Ben Sira, qui n'est pas dans la Bible hébraïque, mais qui fait partie de la plupart des Bibles chrétiennes. on va retrouver de nouveau une personnification de la sagesse. Évidemment, ça fait penser, dans le Nouveau Testament, au rôle que va jouer, d'une certaine manière, Jésus. Puisqu'on nous dit, dans l'Épître aux Colossiens, par exemple, que c'est par lui que Dieu a créé l'univers. Alors là, on nous dit que c'est par la sagesse. Donc, puisque la sagesse est personnifiée, alors là, c'est un personnage féminin, mais après tout, pourquoi ne pas envisager une personnification masculine ? À ce moment-là, ça peut donner Jésus. Jésus qui est, dans le prologue de Jean, le verbe incarné, la parole incarnée. Donc, s'il y a bien une incarnation de la sagesse, c'est Jésus. Donc, on voit comment cette perception de Jésus comme étant une incarnation de la parole de Dieu, et pourquoi pas de la sagesse, a déjà des parallèles dans la littérature hébraïque plusieurs siècles auparavant, y compris sur le rôle, notamment de la vie. Ici, je vous disais, chapitre 3, verset 18, « Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. » Autrement dit, la vie, on l'a comment ? On l'a par. Or, Jésus va dire « Je suis le cep, vous êtes les sarments, etc. » dans Jean, chapitre 15. Donc, on va avoir cette notion aussi de cet arbre qui donne la vie. Donc, on pourrait comme ça dresser un certain nombre de parallèles entre la sagesse ici et le Christ dans le Nouveau Testament. Également dans cette section, vous allez voir que le discours se fait, le rapport entre celui qui enseigne et celui qui est enseigné est un rapport paternel, mon fils. On le voit régulièrement. Chapitre 1, verset 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père, ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Verset 10, mon fils. Chapitre 2, verset 1er, mon fils. Chapitre 3, verset 1er, mon fils. Verset 21, mon fils. Chapitre 4, verset 1er, écoutez mes fils. Verset 10, écoute mon fils. Verset 20, mon fils, prête attention à mes paroles. Chapitre 5, mon fils, prête attention à ma sagesse. Verset 7, maintenant donc mes fils, écoutez-moi, etc. etc. Vous allez voir, à chaque chapitre, ça revient de nouveau, chapitre 6, verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père, ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Chapitre 7, mon fils, garde mes paroles. Etc. etc. Donc voyez l'insistance dans cette section sur la personne à laquelle on parle, c'est le fils de celui qui s'adresse. Alors est-ce que ça veut dire que ces proverbes ont vraiment été rédigés par un père à son fils ? C'est possible, hein, il peut y avoir vraiment un vrai rapport biologique, mais on sait également que le rapport du père au fils s'inscrit dans d'autres cadres sociaux que le rapport biologique. On le voit très clairement dans la correspondance diplomatique, lorsqu'un vassal écrit à son suzerain, il l'appelle mon père. Ou alors mon maître. Donc on va voir le rapport d'esclave au maître, mais aussi le rapport père-fils. Alors que lorsqu'un roi écrit à un roi de même rang, il va dire mon frère, ton frère. Donc ces liens familiaux peuvent être symboliques, et notamment liés à la hiérarchie. Donc on peut imaginer que ce soit l'enseignement d'un maître à son disciple. Et que le disciple appelle son maître père. Bon, je ne vais pas développer davantage cette première section. Je pense que là, vous avez les caractéristiques de ces 9 premiers chapitres. On y reviendra tout à la fin, quand on s'intéressera à la progression d'ensemble dans le livre des Proverbes. La deuxième section, ce sont les chapitres 10 à 22. Donc vous voyez, ça occupe un bon tiers, c'est le tiers principal du livre. C'est même ce qui est au centre du livre, au cœur du livre. On pourrait dire que c'est la section principale. Or précisément, cette section principale est composée de proverbes indépendants. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une structure comme dans les 9 premiers chapitres, avec des grands discours. Vous allez avoir toute une succession de maximes, de proverbes, qui sont pratiquement indépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'ils vont se nourrir d'une thématique, plutôt de plusieurs thématiques qui seront récurrentes, et on va alterner. Donc on va alterner les thèmes, vous allez avoir un verset va vous parler de quelque chose, le verset suivant va vous parler de toute autre chose. Donc il n'y a pas une progression, il n'y a pas une structure rationnelle, en tout cas s'il y en a une, personne ne l'a découverte, Et si ça vous intéresse, vous pouvez faire une thèse de doctorat là-dessus. Vous aurez peut-être des idées. Mais disons que vous allez avoir des thèmes qui vont revenir. Et donc, tous ces chapitres, chapitres 10 à 22, peut-être jusqu'à 24, si on englobe, on verra tout à l'heure, donc développent ces thèmes à l'aide, donc, je disais, de petits proverbes indépendants qui vont adopter une structure le plus souvent parallèle. On a déjà vu ça dans les psaumes. Je dis quelque chose, et puis ensuite, je dis une deuxième fois la même chose, mais à l'aide de synonymes, ou en inversant, on peut faire un chiasme, ou au contraire, je vais mettre en contraste, ou je vais faire une comparaison. De la même manière que, eh bien, de la même manière, ceci, cela. Ou alors, au contraire, il y a une telle chose, mais le contraire... voilà. Donc, vous allez avoir toujours deux membres, vous allez avoir des structures avec deux membres, et les deux membres, en général, vont se répondre l'un à l'autre, soit parce qu'ils sont parallèles, soit parce qu'ils sont opposés, soit parce qu'ils sont mis en comparaison. Alors, quels sont les thèmes qui sont abordés dans cette section principale? On va pas tous les faire, mais on va regarder les principaux. Un des thèmes principaux, c'est le thème de la parole. Ce qui sort de notre bouche. Je vous donne un exemple. Chapitre 10, verset 11. « La bouche du juste est une source de vie. La bouche des méchants couvre la violence. » Donc, vous voyez, on vient contraster la bouche du juste d'une part, la bouche des méchants d'autre part. Verset 19. « Avec beaucoup de paroles, les offenses ne manquent pas. Celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. » Donc, opposition là encore, entre quelqu'un qui parle beaucoup et quelqu'un qui parle peu. Et évidemment, on met en garde ceux qui ont tendance à parler, les bavards. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce thème? Verset 11-12, par exemple. Par la bénédiction des gens droits, la ville s'élève. Par la bouche des méchants, elle est rasée. Donc, vous voyez, le sort de la ville est lié à ce qui sort de la bouche des gens qui l'occupent, soit des paroles de bénédiction, et à ce moment-là, qui vont édifier, ou au contraire, des paroles de malédiction qui vont détruire. Verset 12, on continue sur le même thème, 12b, l'homme qui a de l'intelligence se tait. Donc, vous voyez, on revient vraiment sur cette thématique de la parole. C'est pas la seule thématique qui est abordée. Par exemple, ici, on a, j'ai sous les yeux, là, je regardais chapitre 11, verset 4. La fortune ne sert à rien au jour de la colère, c'est la justice qui délivre de la mort. Donc, il est question de la fortune, il est question de l'argent. Et les considérations financières sont assez récurrentes. Toujours au chapitre 11. Verset 24, « Tel qui fait des largesses devient plus riche, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Alors ça pourrait être, je sais pas, un proverbe qui pourrait être affiché dans le hall d'une banque. Voyez ici le rapport à l'argent, en encourageant la générosité. Un peu plus loin, verset 28, « Celui qui met sa confiance dans ses richesses tombe, les justes s'épanouissent comme le feuillage. » Donc, vous voyez, là encore, la mise en garde contre la confiance dans la richesse. Alors, chapitre 12, on a une autre thématique qui est le rapport... Mais déjà, chapitre 11 et 12, on a le rapport à la femme. Donc, dans le rapport de couple, notamment, sur le mariage, le rapport à la femme. Par exemple, chapitre 11, verset 22... Un anneau d'or au groin d'un cochon, telle est une femme belle et dépourvue de jugement. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible, je vous vois rire. Mais... Alors bon, quand même, une belle parole. Chapitre 12, verset 4. Une femme de valeur est la couronne de son mari. Bon, évidemment, la deuxième partie du verset est moins drôle. Celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Donc, vous voyez, par opposition entre une femme de valeur et une femme qui fait honte. Et donc, tous ces thèmes vont être développés. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme thème? La paresse, évidemment, est un thème qui revient régulièrement. Chapitre 13, verset 4. Le paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien. Les hommes actifs sont dans l'abondance. Donc, on vient contraster ici. La première partie parle du paresseux, celui qui ne fait rien. La deuxième partie parle de celui qui travaille, qui est actif. Évidemment, on condamne la paresse. Donc, vous allez voir, tous ces thèmes vont être récurrents. Moi, dans ma Bible, j'ai mis des petites icônes en fonction des thèmes. Comme ça, je peux repérer rapidement de quoi ça parle. Par exemple, chapitre 12, verset 17, on a de nouveau un rapport à la parole. Celui qui dépose avec probité fait un rapport juste, le faux témoin trompe. Donc, ce qu'on dit, attention aux paroles qui sortent de notre bouche, en particulier si notre témoignage est fiable ou si au contraire c'est un faux témoignage. Verset 18, tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée. Donc, attention à ne pas parler trop vite parce que la parole peut être blessante. Et puis ensuite, la deuxième partie du verset, la langue des sages guérit. Donc, vous voyez, la langue, elle peut blesser ou elle peut guérir. Chapitre 13, verset 3. Celui qui surveille sa bouche se garde lui-même. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa ruine. À propos de la paresse, chapitre 12, verset 24. La main des hommes actifs gouverne, la main nonchalante est astreinte à la corvée. Et puis un peu plus loin, verset 27, le nonchalant ne rôtit pas son gibier, le bien précieux d'un homme, c'est d'être actif. Voilà, donc travailler plus pour gagner plus. Ah ben non, c'est fini ça, mince, c'est plus à la mode. Bon, désolé. Donc voilà, vous pouvez parcourir les chapitres qui suivent, vous verrez, ces thèmes-là, notamment les thèmes que je vous ai donnés là, sont les thèmes les plus récurrents. Chapitre 14, on nous parle d'argent, verset 20, le pauvre est détesté même par ses proches, les amis du riche sont nombreux. Alors, je ne sais pas comment il faut le prendre, mais là, d'un côté, alors ça peut être soit ça peut être un encouragement à quand même être riche, parce que si on est pauvre, on risque de faire fuir tout le monde. Ou peut-être est-ce que c'est ironique par rapport à l'amitié, en disant finalement quelle est l'amitié véritable. Je ne sais pas. Chapitre 15, on nous parle des paroles, encore une réponse douce. Détourne la fureur, au verset premier. Une parole blessante excite la colère. Vous voyez encore ce rapport entre la parole douce d'une part, la parole blessante d'autre part. Verset 4 du chapitre 15, toujours, une langue bienfaisante est un arbre de vie. La perversité en elle brise l'esprit. Vous voyez, il y a le contraste qu'on observe ici. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? De l'argent encore, toujours chapitre 15, verset 16. « Mieux vaut peu avec la crainte du Seigneur qu'un grand trésor avec la panique. » Et le verset 17 qui suit. « Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé là où l'on se déteste. » Donc, cette sagesse, vous voyez, on est vraiment... tout le monde, quand on lit ce genre de choses, tout le monde... peut avoir des souvenirs en disant « oui, tiens, c'est bien vrai, ça, je l'ai vécu ». Voilà, il y a vraiment ce côté pragmatique dont on peut faire l'expérience chacun dans notre existence. On parle encore des paroles, on parle encore de l'argent, chapitre 16. Chapitre 16, verset 8, « Mieux vaut peu avec la justice que d'abondants revenus illicites ». Il n'y a pas un ministre, là, récemment, qui... Je sais pas quoi, là. Bref. Voilà. Peut-être on devrait leur offrir une Bible. Verset 16, chapitre 16, verset 16. « Il vaut bien mieux acquérir de la sagesse que de l'or. L'intelligence qu'on acquiert est bien préférable à l'argent. » Donc, tout ça, c'est l'argent. La parole, de nouveau, chapitre 16, verset 24. « Les paroles belles sont un rayon de miel, douceur pour la gorge et remède pour les os. » Pour mettre ça dans une pharmacie. Chapitre 17, verset 1er, ça se répète également. « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Ça reprend ce qu'on avait vu, chapitre 15, verset 17. Voilà, bon, je passe un petit peu. On revient, sur la question de la femme. Chapitre 18, verset 22. « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. » Ah. En hébreu, ça sonne bien, matza isha matza tov. C'est quatre mots. Matza, c'est le verbe trouver, il a trouvé. Donc, on trouve, matza isha, on trouve une femme. Matzatov, on trouve bien. On trouve bon, voilà. Qui trouve femme, trouve bon. Quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français, vous voyez, mais c'est en hébreu, c'est... Donc voilà, et la deuxième partie ne vient pas contredire, elle vient compléter. C'est une faveur qu'il a obtenue de Yahvé. Donc il y a quand même des choses bien par rapport aux femmes. De nouveau, chapitre 19, toujours à propos de la femme, verset 14. Une maison et des biens, voilà le patrimoine qu'on reçoit des pères. Une femme qui a du bon sens est un don de Yahvé. On retrouve également la thématique de la paresse. Chapitre 19, verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat, il ne la ramène même pas à sa bouche. Il est tellement paresseux, ça le fatigue. On retrouvera ce verset un peu plus long, chapitre 26, on y reviendra. Chapitre 20, verset 4, de nouveau la paresse. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il demandera, mais il n'y aura rien. Vous voyez en quoi toute cette littérature, évidemment, a influencé les auteurs juifs et chrétiens plus tard, jusque tout récemment. La littérature française est pétrie de culture biblique. Quand vous lisez les fables de La Fontaine, c'est évidemment basé sur un certain nombre de proverbes qu'on trouve dans la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sur la femme, chapitre 21, verset 9, « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. » Donc, on est pour la paix des ménages. La femme querelleuse est mentionnée au verset 19 également. « Mieux vaut habiter dans un pays désert qu'avec une femme querelleuse et contrariante. » Bref. La paresse, verset 25, toujours chapitre 21, verset 25, « Les désirs du paresseux le font mourir parce que ses mains refusent d'agir. Chapitre 22, verset 13, « Le paresseux dit, il y a un lion dans la rue, je serai tué au milieu de la place. » C'est des excuses pour rester chez lui et pas travailler. Je ne peux pas sortir, je vais me faire écraser. Verset 14, la bouche des autres femmes est une fosse profonde, celui contre qui le Seigneur est furieux, il tombe. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est chapitre 10 à 22, vous voyez cet ensemble de proverbes, des phrases courtes, avec ses parallélismes sur des thématiques très diverses. Là, je me suis focalisé, puisqu'on avait peu de temps, sur les principales thématiques qui sont abordées. Il y en a d'autres, évidemment. La deuxième partie du chapitre 22, comme je disais tout à l'heure, à partir du verset 17, mentionne les paroles des sages. « Tends l'oreille pour écouter les paroles des sages, applique ton cœur à ma connaissance. » Alors, en même temps, il n'y a pas besoin d'en faire une nouvelle section, puisqu'elle n'est pas attribuée à quelqu'un en particulier. D'un autre côté, on voit cette expression « les paroles des sages » qui revient également au chapitre 24, verset 23. Et en particulier, regardez au verset 20, « Ne t'ai-je pas écrit 30 instructions, des conseils et de la connaissance ?» Alors, donc, d'une part, il est question de ces paroles de sages, d'autre part, il y a ce chiffre 30. Et si vous regardez ces chapitres 22 à 24, enfin 22b, la deuxième partie du chapitre 22 jusqu'au chapitre 24, on a découvert un nombre de parallèles avec la sagesse d'Aménémopée. Alors, c'est un scribe qui a écrit une littérature de sagesse en Égypte, Aménémopée, ça s'écrit comme ça se prononce, et qui date du 13e, 12e siècle avant notre ère, donc le bronze récent. Et il y a 30 chapitres. Donc, on se dit, il y a d'une part des liens, on retrouve des liens thématiques, d'une part, d'autre part, il y a le chiffre 30, et puis enfin, il est question de ces paroles des sages. Donc, il est bien possible qu'une forme de cette sagesse, ou en tout cas, des traditions liées, communes, traditions communes avec cette sagesse d'Aménémopée, aient été intégrées ici, dans ces chapitres 22 à 24. Et donc, mais cela dit, dans l'état actuel, ça se présente comme un complément, disons, ça se présente comme un complément au proverbe qui précède. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, dans cette section, on a parfois des contradictions avec les autres sections du livre des proverbes. C'est intéressant, ce qui justement montre bien aussi les origines diverses. C'est pas la même personne qui se contredit, c'est simplement que ce sont des livrets différents qui ont circulé indépendamment et qui ont été compilés sans forcément qu'on vienne tout bien recadrer. Par exemple, chapitre 24, verset 16, « À sept reprises, le juste peut tomber, il se relève. » On dit qu'il peut tomber. Bon, il va se relever, mais il peut tomber. Alors que chapitre 10, verset 30, nous disait « le juste ne vacille jamais ». Donc d'un côté, on nous dit bah, « le juste ne vacille jamais », après ça on dit « si, si, en fait, il peut tomber, même 7 fois, mais bon, il se relève ». Alors bon, c'est pas une contradiction flagrante, mais vous voyez bien qu'on n'a pas le même vocabulaire. Il y aura d'autres contradictions qu'on va voir justement dans la section qui suit. Alors la section suivante, chapitre 25 à 29, on retrouve cette fois-ci le personnage de Salomon, et là c'est clairement identifié, chapitre 25, verset 1er. Voici encore des maximes de Salomon transmises par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Alors c'est intéressant parce qu'en plus on a une donnée historique. On nous dit, voilà, elles ont été transmises par les gens d'Ézéchias, dans l'entourage d'Ézéchias. Sous-entendu que ce n'est peut-être pas le cas des autres sections, qui ont circulé indépendamment, peut-être dans d'autres milieux, peut-être à d'autres époques. Et de fait, dans ces chapitres 25 à 29, on va retrouver un certain nombre de proverbes qu'on a déjà vus dans la section 10 à 22, la section principale des proverbes de Salomon. Il va y avoir des doublés. Par exemple, chapitre 25, verset 24. « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. » Vous vous souvenez, on l'a lu tout à l'heure. C'est Proverbe 21:9. Là, vous avez pratiquement du copier-coller. De la même manière, chapitre 26, verset 13. « Le paresseux dit, il y a un fauve sur la route, il y a un lion sur la place. » On l'a vu tout à l'heure, c'est Proverbe 22:13. Vous voyez, alors, avec parfois des toutes petites variantes, hein, des fois c'est une petite virgule ou un synonyme, etc. Regardez le verset 15, toujours chapitre 26, verset 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat, il est trop fatigué pour la ramener à sa bouche. On l'a vu tout à l'heure aussi, Proverbe 19, 24. Donc, d'un côté, on peut être surpris d'avoir ces doublons, on peut dire, mais attendez. C'est dommage, c'est une perte de temps, une perte d'espace. Mais en réalité, ça s'explique précisément parce qu'il s'agit à l'origine de compilations qui ont circulé indépendamment. Vous aviez un livret, les chapitres 10 à 22 qui circulaient seuls, les chapitres 25 à 29 qui circulaient indépendamment et qui ont été ensuite rassemblés. On avait vu le même phénomène pour les psaumes. Du coup, parfois, on a également une opposition ou une correction de ce qui a été dit précédemment. Par exemple, à propos du miel, chapitre 25, verset 16. Manifestement, on a une réponse par rapport à ce qui a lieu au chapitre 24. Regardez chapitre 24, verset 13. Chapitre 24, verset 13. « Mange, mon fils, du miel, car il est bon. Le rayon de miel est doux à ton palais. » Donc c'est une pub pour le miel. D'ailleurs, moi j'ai déjà acheté des pots de miel où il y avait ce verset cité dessus. C'est un bon argument de vente pour un apiculteur. Mon grand-père est apiculteur, il peut mettre ça sur ses pots de miel. Mange du miel, mon fils, car il est bon. Donc voilà, on encourage le lecteur à manger du miel. Eh ben, sauf que si vous regardez chapitre 25, verset 16, « As-tu trouvé du miel ? N'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. » Donc, bon, d'accord, tu peux manger du miel, mais enfin pas trop quand même. Hein. Et de nouveau, verset 27, chapitre 25, verset 27, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Voilà, donc apparemment, peut-être que le proverbe précédent, là, du 24-13, a été un peu trop appliqué. Il a fallu un petit peu rééquilibrer les choses. D'autres doublés également, je continue, le chapitre 27, verset 15. Une gouttière qui ne cesse de couler par un jour de pluie est une femme querelleuse. Et une femme querelleuse sont comparables. Celui qui la retient le vent, sa main droite saisit de l'huile. Donc vous voyez, on compare la femme querelleuse à une gouttière qui ne cesse de couler. Et ça, c'était déjà chapitre 19, verset 13. Je ne crois pas qu'on l'avait lu, mais vous pouvez vérifier la référence. Voilà, c'est ça. Verset 13b, chapitre 19, verset 13b. Les querelles d'une femme sont une gouttière qui ne cesse de couler. Également, le verset 21a, chapitre 27, verset 21a, « Il y a un creuset pour l'argent et un four pour l'or. » C'est la même comparaison qu'on va retrouver, chapitre 17, verset 3, dans la première partie. Vous allez aussi avoir la même petite expression, « Il y a un creuset pour l'argent et un four pour l'or. » La deuxième partie, en revanche, est différente. C'est-à-dire qu'on vient, par exemple, chapitre 27, verset 21, on va dire « Un homme est jugé d'après sa renommée. » Alors que chapitre 17, verset 3, « Celui qui sonde les cœurs, c'est Yahvé. » Donc il y a l'idée quand même d'éprouver, hein, le creuset, pour l'argent, le four pour l'or, c'est ce qui permet de purifier, d'évaluer, on enlève les impuretés, on voit ce qu'il en est réellement, on vérifie la pureté. Eh bien, il y a cette idée également de purification et d'évaluation. Donc voilà pour ces chapitres 25 à 29, qui sont donc une autre section, une autre compilation, du même type que les chapitres 10 à 22. Donc des petits proverbes, les uns alignés à côté des autres, sans forcément qu'il y ait une progression ou une organisation rationnelle. Et puis enfin, on va terminer avec les deux derniers chapitres, 30 et 31, qui, comme je le disais au début, sont attribués à d'autres personnages. Donc là, ce ne sont plus des proverbes attribués à Salomon, ce sont des proverbes attribués à Agur et à Lemuel, chapitres 30 et 31 respectivement. Alors chapitre 30, parole d'Agur, fils de Yaké, sentence, déclaration de cet homme pour Ithiel et pour Ukal. Eh bien, ces personnages sont totalement inconnus. On ne sait pas qui est Agur, on ne sait pas qui est Yaké, on ne sait pas qui est Ithiel et qui est Ukal. Et l'onomastique, c'est l'étude des noms, onoma, en grec c'est le nom. Donc l'onomastique, c'est quand on fait l'étude de la morphologie des noms propres pour essayer de déterminer les origines géographiques, ethniques, sociales, éventuellement, etc. Donc quand on étudie la forme des noms. On remarque, par exemple, que ces noms ne sont pas des noms yavistes. On n'est même pas sûr que la morphologie soit hébraïque. En fait, c'est peut-être plus proche de l'araméen ou de l'arabe que de l'hébreu. Et ça, c'est intéressant, puisque la semaine dernière, on avait parlé du livre de Job, et j'avais fait remarquer que les références géographiques étaient également liées à l'Arabie. Donc, il y a une production littéraire d'origine arabique, et peut-être que le livre de Job lui-même vient en tout cas, les traditions liées au livre de Job viennent de cette région-là. Eh bien, ce n'est pas impossible que ces chapitres-là, également, soient d'origine arabe. Alors, dans le chapitre 30... La première partie est un discours sur la sagesse. Et dans la deuxième partie, on a des proverbes numériques. Alors ça, c'est un genre littéraire, une structure de parallélisme qui diffère de celle qu'on a vue précédemment. Avant, on avait des parallèles à deux membres. En général, je dis une chose et je dis une deuxième chose. Et la deuxième chose est parallèle à la première, éventuellement un parallélisme inversé, éventuellement une opposition. Là, c'est pas un système binaire, c'est un système à 3, 4, 6 ou 7 membres, avec une progression. Donc, on va vous dire, par exemple, regardez verset 15b, « Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais assez. » Donc, vous allez avoir un parallèle. AB, A'B, A et A' sont des chiffres, 3 et 4 respectivement, mais on voit la progression. Et dans la deuxième partie, c'est pareil, insatiable, ne dit jamais assez. Et ensuite, vous avez la liste de ces quatre choses. Verset 16, le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Donc vous avez quatre choses. Le shéol, la femme, la terre, le feu. De nouveau, verset 18, il y a trois choses étonnantes qui me dépassent, quatre que je ne connais pas. Voyez encore, il y a deux parties qui sont parallèles, mais cette fois-ci avec une progression. Trois, quatre, et puis d'un côté des choses étonnantes qui me dépassent, et puis de l'autre côté des choses que je ne connais pas. Et ensuite, on vous donne la liste, verset 19. La trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur le rocher, la trace du bateau au cœur de la mer, et la trace de l'homme chez la jeune fille. Trace, c'est le sillon, il faut comprendre le sillon de l'aigle dans le ciel, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le sillon du serpent sur le rocher, le serpent passe, mais le sillon, on ne le voit plus, après il disparaît. Le sillon du bateau au cœur de la mer, c'est-à-dire qu'il fait un sillon, mais très vite le sillon disparaît, puisque la mer redevient calme. Et puis le sillon de l'homme chez la jeune femme, je vous passe les détails. Verset 21, à cause de trois choses la terre tremble, il y en a quatre qu'elle ne peut supporter. Donc vous voyez cette progression. Verset 24, il y a quatre qui sont tout petits sur la terre et suprêmement sages. Alors là, on a oublié de dire les trois. Il y a peut-être un verset qui a sauté, et puis on nous donne à chaque fois les quatre. Verset 29, il y en a trois qui ont une belle allure, quatre qui ont une belle démarche. Donc vous voyez à chaque fois, trois et quatre, progression. On passe de trois à quatre, et on dit deux fois la même chose, l'allure, la démarche. Alors en réalité, on avait un exemple, j'ai repéré un exemple de la même structure, au début du livre des Proverbes, chapitre 6, verset 16. Donc, ce n'est pas non plus apparemment un style qui est réservée à cette section-là. Regardez chapitre 6, verset 16. Il y a six choses que le Seigneur déteste, sept qui sont pour lui une abomination. Donc le même principe. Proverbe numérique, 6 puis 7, et dans la deuxième partie, détester et abomination. Et ensuite, vous avez la liste. Pour les versets suivants. Donc, vous voyez, c'est. Alors, est-ce que c'est un proverbe qui a été glissé là, venu de l'autre section? Est-ce que ça correspond à un genre littéraire qui était attesté plus généralement voilà. En tout cas, c'est intéressant d'identifier ce type de progression, de parallélisme progressif. Le chapitre 31. Attribué donc à un certain roi qui s'appelle Lemuel. Alors c'est pareil, les rois, si c'était un roi d'Israël ou de Juda, on le saurait, puisque vous avez toute la liste des rois dans le livre des rois, justement. On vous les donne tous les uns après les autres, y compris ceux qui ont un règne éclair. Vous savez, il y en a qui ne règnent que quelques semaines ou quelques mois. Hein. Il y a très vite des coups d'État. Donc, manifestement, enfin, on le saurait. Donc c'est probablement pas un roi israélite. Il a régné sur un autre royaume. Alors, dans la ponctuation du texte massorétique, c'est parole de Lemuel, roi. Et puis ensuite, on nous dit que c'est une sentence, massa. J'en avais parlé dans les petits prophètes. Sauf que normalement, Meller, il faudrait lui mettre l'article défini. En principe, en hébreu, on devrait dire parole de Lemuel, le roi. Donc, du coup, le fait que Meller n'ait pas d'article fait penser que c'est peut-être un état construit. Mais à ce moment-là, il faut s'écarter de la vocalisation, pas de la vocalisation, mais de la ponctuation massorétique, pardon. Et à ce moment-là, il serait le roi de Massa. Et Massa, ce sera un toponyme, donc un lieu, une ville, mais une ville qu'on ne connaît pas. Donc c'est un petit peu, tout ça, c'est un petit peu mystérieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'hésite pas dans le livre des proverbes à insérer des proverbes de gens qui ne sont peut-être pas israélites. Donc ça veut dire que leur religion n'est pas la religion israélite, la religion n'est pas la religion juive. Et par ailleurs, des gens qui ne sont pas forcément connus par ailleurs. Donc c'est intéressant de voir que, d'un point de vue de la révélation, si on dit oui, mais quand même, la Bible, transmission de une sorte de révélation divine, ben manifestement, ce n'est pas comme ça que les gens de l'époque raisonnaient. Les gens ne se disaient pas, attention, ce sont des écritures saintes, des paroles qui viennent de la bouche de Yahvé lui-même. Pas vraiment. Là, ce sont des paroles qui viennent de la bouche de quelqu'un qui, à la limite, ne connaît pas Yahvé, mais simplement, ce qu'il dit, c'est intelligent, et donc on prend ce qui est bon à prendre partout. Et donc, d'une certaine manière, c'est une autre forme de révélation, plus universelle, de dire finalement, les êtres humains, ils sont capables de dire des choses intelligentes, même s'ils n'adhèrent pas forcément à la même religion. Et s'ils disent des choses intelligentes, ben, on peut quand même les récupérer. On pourrait se demander, s'il y avait eu davantage de contacts culturels, est-ce qu'on aurait eu des paroles du Bouddha dans le livre des Proverbes? Après tout, pourquoi pas? Si on est capable de mettre des paroles d'Égyptiens, des paroles d'Arabes, des paroles de Mésopotamiens, pourquoi ne pas aller du côté de l'Inde? Bon, le fait est que c'était très très loin et qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas de communication jusqu'à... Là, c'est vraiment des civilisations très éloignées. Mais à mon avis, ça n'aurait pas posé de problème à l'époque d'ajouter des paroles du Bouddha. Tenter, bien sûr, qu'elles correspondent à un cadre et à des valeurs qui sont d'accord avec ce qui est dit. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne ferait plus du tout. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui choquerait. On dirait, ben non, surtout pas. Donc, on a ce dernier chapitre. Et puis, comme je disais tout à l'heure, à la fin, donc, une structure acrostiche alphabétique. Hein, on a toutes les lettres de l'alphabet les unes après les autres, Aleph, Bet, Guimet, jusqu'à Tav, pour décrire cette femme de valeur, on est dans un côté, on a un côté un peu utopique. C'est une sorte d'utopie et à la limite proche de la personnification de la femme idéale et donc de la sagesse. Et finalement, ce dernier portrait peut nous renvoyer au début du livre des Proverbes. Puisque justement, dans la première section, le chapitre 1 à 9, comme je vous disais, on a une personnification de la sagesse. Et donc, ce serait de telle manière qu'il y aurait une forme d'encadrement. Vous commencez et vous finissez le livre des Proverbes par cette personnification, par cette femme qui symbolise toutes les vertus, tout ce que la sagesse, tout ce qu'on peut, une sorte d'incarnation de la sagesse. Alors la structure alphabétique, acrostiche, on l'a vu dans les psaumes, hein, vous savez les psaumes 9 et 10, forme anacrostiche, psaume 25, psaume 34, psaume 37, 111, 112, 119, etc. Donc il y a beaucoup de psaumes aussi qui ont cette structure-là. Alors pour conclure, je voudrais regarder, on peut s'interroger sur l'histoire de la rédaction de ce livre, en disant, voilà, on a compilé, on se rend bien compte qu'il y a un caractère composite, qu'on a des sources diverses, certaines qui sont nommées, d'autres qui ne le sont pas, qu'il y a manifestement des proverbes qui ont une origine étrangère, notamment égyptienne, mésopotamienne, arabe, qui ont été compilés. Alors, et puis on gonfle, hein, on ajoute. Alors peut-être qu'il faut partir des sources anciennes, par exemple le chapitre 23-24, qui pourrait venir, la sagesse d'Aménémopée, qui est déjà connue 12e, 13e siècle avant notre ère. Donc ça, c'est avant même l'époque de Salomon. Hein. Si Salomon existait, il était à peu près au 10e siècle avant notre ère. Donc là, on serait encore avant. Donc ça, c'est peut-être les plus anciens proverbes. Ensuite, il faut passer à ceux de Salomon, notamment ces sections de proverbes éparses, donc chapitre 10 à 22 d'autre part, chapitre 25 à 29 d'autre part. Ces deux sections qui ont probablement été rédigées à la même époque, mais dans des milieux différents, ce qui explique les doublons. Les gens ne se concertaient pas, donc on a rédigé ces deux sections les unes indépendamment. On les a rassemblées à un moment donné, peut-être autour justement de ces chapitres 23-24, donc une avant, l'autre après. L'autre après, chapitre 25 à 29, elle corrige un petit peu, comme je disais, parfois certaines choses qui sont dites au chapitre 23-24. Ensuite, on a pu ajouter devant la grande section des chapitres 1 à 9, qui est une forme d'introduction avec des discours généraux. Là, on n'est plus dans des petits proverbes individuels particuliers. Les chapitres 1 à 9, là, c'est des grands discours, des réflexions générales, fondamentales. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La personnification de la sagesse. Et là, on a cette introduction générale à l'ensemble du livre. Et puis enfin, les chapitres 30 et 31, ils ont été ajoutés à la fin un peu comme annexe. Alors à quel moment, je ne sais pas. Mais ils ont été ajoutés en disant, mais tiens, finalement, il y a des bonnes choses, là, ce Agour, ce Lemuel, ils disent des choses bien. Et à mon avis, on aurait pu continuer longtemps comme ça si on n'avait pas dit stop à un moment donné. On aurait pu ajouter encore d'autres chapitres d'origines aussi diverses. Et c'est ainsi que se clôt le livre des Proverbes. Oui. Ah mais oui, très juste. Oui. Oui, alors c'est difficile parce que ça veut dire qu'il faut dater le livre d'Amos, etc. Alors c'est vrai qu'Amos, il y a des oracles prophétiques, il y a des choses qu'on peut assez bien situer au 8e siècle. Hein. Amos est censé avoir vécu au 8e siècle. On peut dater certaines choses du 8e siècle, d'autres peut-être après. Mais effectivement, peut-être que ces sections, elles. En même temps, justement, la question c'est est-ce que la deuxième partie du chapitre 30 est à rattacher à la première partie du chapitre 30, est-ce que ce sont toute une sorte... Est-ce qu'il y a deux sections, 30 et 31, ou est-ce qu'il y a quatre sections, 30A, 30B, 31, 31B, qui ont été ajoutées? Si elles ont été ajoutées à la fin, ça ne veut pas dire qu'elles sont de rédaction tardive, c'est peut-être au contraire des rédactions anciennes. Il peut y avoir une transmission orale sur plusieurs siècles. Toute la difficulté avec ce type de littérature, c'est qu'on est un peu hors du temps, ça se transmet siècle après siècle, il n'y a pas d'ancrage chronologique, à part Ézéchias, là, qui est mentionné à un moment donné, mais sinon on n'a pas vraiment d'ancrage chronologique clair. C'est un peu atemporel, cette sagesse. Et donc ça a pu, à la fois, il peut y avoir des sources très anciennes, même quand je parle de la sagesse d'Aménémopée, elle est attestée au 13e, 12e siècle avant notre ère, mais si ça se trouve, là encore, c'est des proverbes qui peuvent dater d'encore plusieurs siècles auparavant. Donc on a cette compilation de toute une forme de sagesse qui nous interpelle sur l'origine de la sagesse, qui est peut-être divine, ultimement divine, mais qui en même temps peut également s'obtenir de façon empirique, pratiquement. Là, on est de l'ordre de l'empirique, j'observe, j'ai du bon sens, j'acquiers du bon sens, je m'instruis, je viens chercher la connaissance là où elle se trouve, y compris à l'étranger, sans que ça me pose de problème. Voilà pour le livre des Proverbes. Alors on s'arrête là pour aujourd'hui. On a fini, on se retrouve la semaine prochaine, on continue avec la littérature sapientielle. Je vous remercie.